18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir chers amis auditeurs, merci d'être avec nous, vous le savez c'est toujours un plaisir et un plaisir évidemment qu'on partage de 18h à 19h30, une heure et demie ensemble, vous le savez au sommaire, ce que je vous propose tout de suite eh bien, et tout simplement c'est d'aller direction cette forte mobilisation, grand point d'interrogation, est-ce qu'aujourd'hui évidemment la mobilisation a eu autant d'importance que la semaine dernière, on en parlera avec toute une série de syndicalistes, de représentants de syndicats justement, alors qu'en ce moment même à Bastille, vous savez, il y a quelques petites tensions qui sont en train évidemment, des petits heurts entre la police et les manifestants, donc en ce moment même où je vous parle, où le cortège arrive à la Bastille. On parlera aussi, vous savez, et bien tout simplement du Quoi de Neuf avec l'économiste Monsieur Frédéric Bocara, il sera avec nous tout à l'heure. Et ensuite un sociologue qui sera avec nous, qui viendra nous décrypter cette mobilisation. Plus que jamais, les débatteurs influenceurs. Eh bien, tout simplement, ils se retrouveront autour de des sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui, confronter leur point de vue. Ce sera tout à l'heure avec notamment nos débatteurs influenceurs. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, et Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti pour l'interview du jour. Tout de suite, direction, évidemment, la mobilisation. La grève, aujourd'hui, a-t-elle, évidemment, embarqué autant de monde que la semaine dernière? L'ambiance, en ce moment même, évidemment, je vous le disais à Bastille, il y a quelques tensions entre la police et puis les manifestants. Tout de suite, direction, l'interview du jour.
Les informés. L'interview.
Et l'interview, c'est avec, vous le savez, un syndicaliste, mais également aussi celui qui a participé à la manifestation aujourd'hui. Et ils seront d'ailleurs plusieurs à venir défiler sur notre antenne, justement, les syndicalistes. Alors, monsieur Ahmed de Béral, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va? Vous êtes syndicaliste à la RATP, justement. Je vous le disais. Vous étiez à la manifestation aujourd'hui. Est-ce qu'elle avait autant d'ampleur que les fois dernières, Ahmed, première question, parce Ahmed Béral.
Je sors de la manif, je suis dans la manif. Il y a autant de mécontentement que la semaine dernière, qu'il y a deux semaines.
Oui. Voilà.
Nous, on est Rocherail et les RATP, je suis gréviste et les RATP, je suis syndicaliste. Et quand on voit le monde qui est dans les manifestations, j'ai du mal à comprendre comment un gouvernement peut faire passer une retraite de 65 ans. C'est impossible. Mmh. Parce que le monde qui est dans les manifs, soit ce gouvernement il est borné, ou soit c'est un gouvernement de voyous. C'est simple et clair et net.
On parle de combien de manifestants à Paris aujourd'hui? Est-ce que vous avez des chiffres à nous soumettre?
Moi, j'ai pas de chiffres, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai fait Opéra Bassi. C'est plein de monde. J'ai pas les chiffres, là, je suis en instant de la manif. J'ai pas encore vu le monde, c'était plein à craquer. C'est que aucune personne ne veut valider de partir à la retraite à 65 ans.
Alors moi j'ai quelques chiffres, par exemple, on parle d'une baisse de la mobilisation dans les grandes villes, justement. Une baisse qui se qualifie parfois de 40% dans les principales grandes villes. Vous dites quoi? Vous dites que c'est pas ce que vous observez, justement, dans Paris. Dans Paris, par exemple, j'ai un chiffre, c'est celui de, paraît-il, hein, encore à vérifier, 400 000 manifestants à Paris, justement.
En tout cas, moi, je suis sur Paris et c'est noir de monde. Est-ce que c'est le gouvernement qui compte ou c'est la police? Après, je pense que c'est la police du gouvernement qui fait son décompte pour dire que les gens s'affaiblissent. Non, les gens s'affaiblissent pas. Les gens sont déterminés à venir dans la rue pour dire à ce gouvernement que personne n'ira bosser jusqu'à 65 ans. C'est clair et net.
Oui. Vous battrez jusqu'au bout et jusqu'à quand? Parce que je vous ai vu notamment, on a échangé tout à l'heure, vous étiez avec quelques-uns. Quels sont aujourd'hui ceux qui et celles qui vous soutiennent, Ahmed Béral, vous syndicaliste à la RATP?
Mais aujourd'hui, tous les syndicalistes se soutiennent. Il y a la CFDT, il y a la CIT, il y a FO, il y a Solidaire. Tous les syndicats sont contre cette réforme. Mmh. Et même les députés sont contre cette réforme-là.
Enfin, certains députés, oui.
Il y a même des patrons qui savent eux-mêmes que travailler jusqu'à 65 ans, c'est impossible. Comment un mec qui va travailler dans un déménagement pourrait porter des colis dans un immeuble ou un sac de 6 mois à 65 ans? C'est impossible.
Oui.
Ben non. C'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on se bat pour la retraite pour tous.
Ouais. Quand vous voyez la chef de l'exécutif, Madame Elisabeth Borne, la première ministre, justement bouger peu et notamment discuter, négocier avec les gens des Républicains, est-ce que vous pensez qu'à un moment elle peut se préoccuper dans ce qui se passe dans la rue ?
Moi, je pense que aujourd'hui, Madame Borne, déjà, elle sort une réforme qu'elle-même n'est même pas touchée dedans. Deux, elle essaie de prendre des gens du gouvernement de la droite, je ne sais pas d'où, pour faire passer cette réforme. Mais que le peuple le sache, c'est que si les gens travaillent 65 ans, ben, il y aura une révolution dans la rue. Et tu ne pourras pas ni passer le 49-3, parce que c'est impossible. Quand je vois le monde de la rue, impossible que les gens vont bosser jusqu'à cet âge-là.
Mmh. Aujourd'hui, c'est y compris les retraités qui sont inquiets. Hein, on l'a vu, ça c'est un fait nouveau, ça, Ahmed Béral. Qu'est-ce qu'on dit à la RATP ? Est-ce que, par exemple, comme à la SNCF, on a le sentiment parfois que les syndicats entre eux se sont pas d'accord pour les prochaines manifestations, pour les prochaines dates, y compris, vous savez, pendant les vacances scolaires qui arrivent ?
Moi, je pense que ce soit vacances scolaires ou pas vacances scolaires, il faut aller en grève. Parce que les vacances, c'est, on va dire, c'est une semaine. Perdre 3 ans de sa vie, c'est pour des années. Ça coûte quoi de perdre une semaine de vacances quand on sait qu'un patron peut faire mourir au travail ? La réalité est là. On peut se priver d'une semaine de vacances. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas de congés payés. C'est les gens qui ont fait grève pour avoir des congés payés. Et c'est grâce aux grévistes qu'on a des congés payés, parce que le patron ne nous a jamais donné de congés payés. C'est les travailleurs qui ont réclamé ça. Mais aujourd'hui, on dit que ouais, pendant les vacances, on fait la grève. Mais non, la grève, c'est pas le patron qui a donné les congés payés, c'est pas le patron qui a donné. C'est les gens qui sont manifestés, qui ont fait grève pour avoir ça. Il faut faire grève jusqu'au bout.
Alors aujourd'hui, qui l'emporte selon vous ? Est-ce que c'est la rue qui l'emporte ? Est-ce que c'est l'exécutif, donc le gouvernement ? Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'après cet acte 3 hein, de cette forte mobilisation que vous qualifiez, je reprends vos propos aujourd'hui, que vous avez dit qu'il y a beaucoup de monde, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, vous, le sentiment que c'est la rue qui est en train de prendre le pas ?
Moi, pour moi, j'en étais pas grâce à ces 20 ans sur les RATP. Aujourd'hui, le peuple est avec nous. Et c'est la rue qui a parlé, et on le voit encore aujourd'hui. On va le voir encore samedi, encore plus de monde. Le gouvernement ne va plus rire aujourd'hui.
Oui.
Parce que là, le peuple a parlé. Il n'y a aucune personne qui va accepter de bosser jusqu'à 65 ans. On pense à nos enfants. Quel enfant va bosser jusqu'à 65 ans, voire 66, voire 67 ? C'est impossible. La rue a parlé, et tout le monde est d'accord avec nous. On se bat pour tout le monde. Et la question des vacances, ben non, on peut supprimer une semaine de vacances pour aller en grève et se battre pour une retraite digne. On ne va pas bosser plus parce que le gouvernement dit que vu qu'on vit plus longtemps, vous travaillez plus.
Mais non. Vous dites quoi ? Vous allez poursuivre les mouvements de grève durant les vacances scolaires ou pas ? Ahmed Béral ?
Bien sûr qu'il faut poursuivre. Il faut poursuivre et durcir et faire même des blocages partout dans la France.
Donc vous êtes favorable à un blocage, justement ?
Moi, je suis favorable pour un blocage de la France, parce que c'est pas parce qu'on vit plus longtemps qu'on doit travailler plus longtemps pour le patron. Nos années à vivre, c'est pas pour le patron, c'est pour profiter de notre retraite avec nos enfants, nos petits-enfants, aller à la plage. Et c'est pour ça que nos anciens se sont battus pour avoir des congés payés. Le patron, aujourd'hui, il veut que nous, on travaille, et on meurt au travail. On va pas nous euthanasier au travail. Et soit qu'on se battra jusqu'au bout.
Quand vous dites bloquer le pays, ça veut dire quoi, vous, syndicalistes CGT à la RATP ? Ça veut dire quoi ? S'adresser aux raffineries, s'adresser à l'électricité, s'adresser à vous, la RATP, bloquer les métros, les RER, tout ça, ça veut dire quoi ?
Moi, je pense qu'il faut envoyer un message clair. Bloquer les raffineries, bloquer l'économie, bloquer tout ce qu'il y a à bloquer pour que plus personne plus aller au travail, pour que ce gouvernement comprenne que c'est pas possible. Aucune personne ne peut aller bosser jusqu'à 65 ans. On va pas mourir au travail. Nos parents sont morts au travail. Nous, cette génération nouvelle, on va pas mourir au travail pour ces patrons qui se payent des yachts et qui ont plein de yachts, et nous, on va pas mourir pour eux.
Ouais. Quels sont les messages que vous avez échangé avec vos collègues, vos camarades, justement, comme vous dites, c'est quoi que vous échangez avec eux, Ahmed Béral ?
Bah, nous, ce qu'on échange entre nous, c'est pour durcir le mouvement, durcir et que les étudiants sortent des écoles, et c'est parce que c'est leur avenir à eux. Les étudiants, nous, on se bat pour les étudiants. Parce que c'est eux, la retraite qui va être à 65 ans. Moi, je suis quasiment pas touché dedans. Mais nous, on se bat par rapport à leur génération à eux. Comme moi, mes ancêtres sont battus pour ma génération à moi. Les gens doivent bloquer toutes les écoles et sortir dans la rue. On attend les étudiants dans la rue. Et c'est eux qu'on a besoin, qui bloquent le système, qui sortent dans les rues, qui arrêtent de... Plus personne va à l'école, parce que si c'est pour aller à l'école, pour finir à la retraite à 80 ans, à quoi sert l'école ?
Oui. Dites-moi, Ahmed Béral, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines dans les jours qui arrivent, même si c'est même pas les semaines. C'est quoi le mot d'ordre prochainement, vous, syndicalistes ?
Moi, j'ai qu'un mot d'ordre et j'espère qu'il va être écouté de tout le monde. Que les gilets jaunes sortent dans la rue, que les étudiants sortent dans la rue, que tout le monde sorte dans la rue le samedi 11 et bloquons le pays. Montrons que tout le monde est capable de sortir dans la rue pour dire non à ce retard-là. Parce que si demain on gagne la Coupe du Monde, il y aurait du monde partout dans les rues. Aujourd'hui, il faut amplifier à ce gouvernement, on ne va pas mourir au travail.
Vous n'allez pas mourir au travail, donc vous êtes prêt à tout, c'est-à-dire y compris durant ce qui s'est passé en 1995. Évidemment, je l'aurais compris, Ahmed Béral, c'est de faire plier le gouvernement.
Il faut dépasser 1995 et plier ce gouvernement qui nous manque de respect. Ce gouvernement ne respecte personne, ne respecte même pas les gens qui sont dans la rue, qui ont dit non à cette retraite. Les députés ont dit non à cette retraite-là, il n'y a que ce gouvernement qui dit que on est en déficit. Alors en tout cas, pour acheter des missiles, pour envoyer pour l'Ukraine à des millions et des milliards, là ils ont de l'argent. Mais quand c'est pour mettre de l'argent pour les retraites, il n'y a pas d'argent. Mais quand c'est pour faire des guerres, là bizarrement, il y a plein d'argent.
Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui vous écoutent justement partout en France, vous, syndicalistes de la RATP, CGT, Ahmed Béral?
Moi, ce que je dis à tout le monde, les étudiants, il faut se battre dans la rue. Il faut se battre dans la rue parce que c'est votre avenir et c'est notre avenir à nous. Nous, on se bat pour vous, alors battez-vous pour nous. Tous dans la rue.
Merci Ahmed Béral. Vous avez été donc avec nous, je le rappelle, vous étiez dans les manifestations, vous êtes toujours donc...
Je suis en manifestation, il y a plein de monde à
l'entend. Et on l'entend.
Sur la bassée, il y a du monde. Et il faut que la cette jeunesse sorte dehors parce que c'est leur avenir à eux. Ils ne vont pas mourir au travail. On les attend dans la rue, bloqués partout, là où vous pouvez bloquer. C'est un message fort qu'on envoie.
Eh ben merci
d'eux pour qu'ils sortent dans la rue.
Donc je pense que vous êtes à la Bastille, là, non ? À Bastille.
On est à Bastille. Il y a plein de monde. Et on appelle la jeunesse à sortir dans les rues.
Merci Ahmed Béral. Vous êtes syndicaliste, merci. Donc CGT à la RATP. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et à très vite, évidemment, en direct dans Les Informés. Je vais marquer une courte pause pub et on se retrouve tout de suite après avec un autre syndicaliste, le représentant CGT, notamment Jimmy Dalidou, que vous connaissez. Ensuite, on sera avec un sociologue qui va nous décrypter, nous apporter un éclairage durant cette journée spéciale des retraites. Évidemment, on vous l'a fait vivre sur notre antenne, y compris, vous l'aurez compris, chers amis auditeurs, vous pouvez aussi, vous aussi, intervenir sans aucun problème au 01 53 48 3000.
Les Informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Dans Les Informés, c'est parti, vous le savez, hein, on continue de parler de cette réforme des retraites, cette mobilisation en ce moment même, elle est en train de évidemment de prendre fin hein, du côté de Bastille, donc on continue d'en parler, nous sommes aussi également avec un autre syndicaliste qui est le représentant de la CGT auprès de la SNCF, c'est Jimmy Dalidou que vous connaissez, hein. Jimmy Dalidou, bonsoir.
Bonsoir Adil, bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs.
Merci de nous accorder quelques minutes, Jimmy Dalidou. Justement, comment dirais-je aujourd'hui, la CGT annonce 400 000 manifestants. C'est un peu moins que mardi dernier. Est-ce que ça sous-entend que la manifestation est en train de s'essouffler ou pas du tout ?
Non. Alors vous savez, ce terme d'essoufflement est assez erroné en fait, parce que on constate que dans toutes les luttes partent toujours, ont toujours un pic, partent très d'une manière, on va dire, assez, voilà, d'une manière assez conséquente. Il y a toujours du monde dans la rue, etc. Et au fur et à mesure du temps, il y a de moins en moins de monde. Mais pourquoi je dis que ça ne s'essouffle pas, c'est surtout le fait que bah, la vie, elle est difficile pour tout le monde. Et perdre une journée de travail, c'est perdre quasiment 100 balles sur sa fiche de paye à la fin du mois. Et c'est difficilement, c'est quasiment impossible pour la majorité des Français. Le peuple travailleur en France, le peuple français souffre. Il souffre de par la vie chère, il souffre de par les factures trop élevées, il souffre à plusieurs niveaux. Et c'est pas qu'ils ont pas envie d'aller dans la rue, c'est que bah ils frappent fort les premiers jours et ensuite bah ils y vont mollo. Alors ils veulent plus aller dans la rue, c'est qu'ils peuvent plus y aller. Alors voilà, il y a des hauts, il y a des bas, ça fait partie de la lutte.
Dites-moi, Djili Dalidou, justement, vous dites que ça fait partie de la lutte. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, très honnêtement, que le message est le même? Est-ce que ça prend une autre tournure? Est-ce que les manifestations prennent une autre tournure? Ou, évidemment, c'est le même mot d'ordre?
Alors, est-ce que vous parlez pour cette semaine?
On parle d'aujourd'hui, bien sûr.
Oui, c'est le même mot d'ordre. Le premier mot d'ordre, c'est le fait qu'on ne veut pas travailler plus longtemps. Je pense que il y a une réalité actuellement dans ce pays, c'est qu'on a un gouvernement qui dirige seul, rendez-vous compte, indépendamment des parlementaires qui, même eux, pour la majorité des parlementaires, sont contre la retraite, la réforme des retraites que le gouvernement veut nous imposer. Les parlementaires sont contre, alors qu'ils sont des. On peut dire qu'ils ne sont pas forcément d'accord sur le plan politique. Plusieurs fois, on l'a vu, on l'a constaté qu'ils n'étaient pas d'accord. Et pourtant, sur ce point-là précis, ils sont tous contre. Le peuple travailleur, donc la majorité des Français, est contre. Même certains membres du gouvernement ne se prononcent pas, et de par la neutralité, et quelque part, ils se revendiquent un peu, ils ne se disent pas contre, mais ils ne se déclarent pas pour. Rendez-vous compte, on a deux personnes, M. Macron et Mme Borne, on a deux cerveaux qui vont décider pour 60 millions de Français et qui vont décider de faire travailler 60 millions de Français toute leur vie pour nourrir une classe sociale dominante, parasitaire, qui plus est s'enrichit toujours plus en exploitant le peuple travailleur.
J'ai votre camarade de la CGT à la RATP, Ahmed justement Béral, qui était avec nous là, il y a quelques minutes à peine. Il disait qu'effectivement, ils ne céderont à rien et qu'ils iront jusqu'au bout afin de faire plier l'exécutif. Vous êtes d'accord avec ça?
Alors, il y a deux choses. Je pense qu'il faut analyser la lutte d'une manière rationnelle. De toute façon, pour vous parler franchement, la réforme risque de passer pour la simple bonne raison que le gouvernement la fera passer envers et contre tous, parce que comme vous le savez, la réforme des retraites va orienter inévitablement d'une manière mécanique. Si on revient, on n'aura pas le temps, mais quand vous regardez, vous analysez le niveau du taux de pension à la fin de carrière pour un travailleur lambda, en coupant la part en deux, ça va orienter la plupart des Français vers des retraites privées, vers les agences de spéculation privées qui vont être mises en place par les multinationales qui attendent à la porte pour spéculer sur les retraites privées. Donc, ils la feront passer envers et contre tous. Là où je suis d'accord avec le camarade de la RATP, que je salue d'ailleurs, c'est que de toute façon, une lutte, il faut toujours la mener au bout, pour deux choses. La première, c'est qu'elle permet de conscientiser le peuple travailleur, c'est-à-dire qu'elle le permet... N'oubliez pas une chose, c'est que une lutte, quelle que soit la lutte, permet d'apporter au peuple travailleur, aux travailleurs, une expérience de la lutte, une expérience politique, une expérience du terrain. Donc à un moment, ça porte toujours ses fruits. Deuxième chose, un élément qu'on a tendance à oublier, la solidarité du peuple travailleur. Une manifestation, quelle que soit son orientation, c'est d'abord et aussi une solidarité du peuple travailleur, qui à un moment s'unit dans la rue vers un même objectif. Et ça, à un moment ou un autre, que les forces du capital le veuillent ou pas, à un moment, ça sera instoppable. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que malgré la vie chère, malgré l'inflation, malgré l'augmentation des factures, vous aviez plus de 2 millions de Français dans la rue, et même si entassé, il y a un peu moins de Français dans la rue. Il y a eu un peu moins de Français aujourd'hui. Il y a toujours autant de Français qui soutiennent le mouvement. Il y a toujours autant de Français qui soutiennent la lutte. Et il y a beaucoup de Français, notamment dans le privé, qui disent clairement que s'ils avaient les conditions, si les conditions ont été réunies et qu'ils pouvaient faire grève, parce que beaucoup ne peuvent pas faire grève. Le camarade de la RATP a dû vous expliquer qu'il faut un préavis de grève pour faire grève. Oui, non, oui. C'est illégal. Le privé, la plupart du temps, ils ne peuvent pas faire grève.
Dites-moi, Jimmy Dalidou, paraît-il que vous allez me confirmer évidemment cette information que la circulation des trains sera de nouveau perturbée demain sur les réseaux SNCF. Est-ce le cas ?
Oui, alors c'est ça que... Voilà, alors un message que je devais vous faire passer, j'étais au téléphone avec un camarade de la CGT qui me faisait un petit topo tout à l'heure. Alors demain, la grève est reconduite. Mais attention, il y a deux choses. La première, c'est qu'elle est reconduite demain, mais simplement à l'appel de la CGT et de Sudrail. Donc, comptez quand même quelques perturbations, parce que Sudrail et CGT, chez les cheminots, sont assez, représentatifs. Mais l'unité syndicale est toujours d'actualité. Le 11 février, appel à la manifestation nationale dans toutes les localités, mais en appel, pas forcément au préavis de grève, pour que les voyageurs puissent voyager tranquillement, mais il risque quand même d'y avoir quelques perturbations le 11, parce que dans les différentes localités, certains préavis de grève seront quand même reconduits pour que ben, justement certains camarades et certains travailleurs puissent aller justement à la manif.
Jimmy Dalidou, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc sur l'antenne de évidemment Désinformé sur BFM très prochainement. Merci d'avoir été avec nous pour évidemment nous apporter les derniers éléments. Merci représentant merci CGT à la SNCF. Merci Jimmy.
Merci Dalidou. Merci à
tous. Tout de suite, c'est le Quoi de Neuf, 18h28.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Et je voudrais pas qu'on soit en retard, on est dans les clous en tous les cas. Et c'est avec une voix que vous connaissez, celui que j'avais reçu il y a quelques semaines, c'est Frédéric Bocara, économiste et puis ancien, je le disais, ancien membre du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Bonsoir mon cher Frédéric Bocara.
Bonsoir, tu vas bien ?
Très bien, très très bien, tout va bien. Alors dans le Quoi de Neuf, vous avez décidé évidemment de nous faire un petit billet d'humeur. Quel est le regard que vous nous apportez ce soir dans Les Informés ?
Bah, ce soir, ce qu'on peut dire, c'est que l'humeur, c'est la désinformation sur cette histoire de retraite. Parce oui. qu'on peut se pencher sur ce qu'on nous raconte concernant les retraites. Alors, on nous raconte deux choses. On nous raconte d'abord que dans tous les pays, tout le monde part beaucoup plus tard, etc. Ça n'est pas vrai. Mmh. En réalité, dans la plupart des pays, on part effectivement à peu près au même âge qu'en France. Dans la zone euro, l'âge de départ moyen, c'est 61,9 ans, 62 ans, disons. En Allemagne, 63 ans. En Autriche, 60,7 ans. En Belgique, 60,1 ans. Au Danemark, 63,5 ans. En Espagne, 60,4 ans. Finlande, 63,6 ans. Grèce, 58. Italie, 61,3 ans. Pays-Bas, 62,8 ans. Royaume-Uni, 63,2 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on nous raconte que dans tous les autres pays, on part plus tard que chez nous et qu'il faut retarder ?
C'est ce que je voulais vous poser comme question, oui.
Et parce que beaucoup de gens vont très vite, ils regardent ce qui est écrit légalement comme limite légale d'âge, parfois ultime, pas toujours ultime, je vais expliquer. C'est comme si nous, on disait que les Français partent à 67 ans, parce qu'à 67 ans, là, on est obligé de partir. Mais beaucoup liquident leur pension avant, quitte à avoir une pension plus basse. Ils partent à 62, à 63, avec une décote, à 64, à 65. Il n'y a qu'à 67 qu'on peut partir sans décote. Et dans tous les pays, c'est comme ça. Ils partent avant l'âge limite, qui n'est pas l'âge effectif. Et il y a plus. Dans des pays comme l'Angleterre, par exemple, en fait, on a deux niveaux de pension. On a un niveau de pension qui est donné par l'État. C'est issu de la réforme Lord Beveridge dès 1945. Et donc, à 60 ans, on peut partir, on touche la pension d'État. Et puis, par exemple, dans la profession, si on est enseignant, on peut partir à 64 ans, mais on peut liquider avant, on part à 60 ans, on touche que la pension d'État. Et quand on atteint les 64 ans, s'ajoute la pension de retraite d'enseignant. Donc, ce qui explique que les Anglais, en moyenne, ils partent à 63,2 et pas à 64. Donc, en réalité, toute cette affaire-là de comparaison vise à montrer la France comme une exception alors qu'elle est comme les autres pays, ni moins bien, ni mieux, il y a du mieux, il y a du moins bien, oui. C'est plus compliqué que ça. Et dans chaque pays, On raconte à chaque pays que lui, il est exceptionnel et que les autres, c'est tellement mieux. Non, non, on veut masquer les choses. Donc ça, c'est une première... C'est une humeur, effectivement, je ne suis pas content de ça. La deuxième chose, c'est qu'on raconte aux gens que...
Allez-y, en une minute avant de lancer la pub. Hein.
D'accord. On vieillit, et comme on vieillit, il va falloir payer plus et travailler plus. Mais on ne demande pas aux gens de travailler plus, on demande aux mêmes de travailler plus longtemps. Si moi, je travaille plus longtemps, ça ne crée pas un emploi de plus. Ce qu'il faut, c'est créer des emplois pour les millions de jeunes, les millions de chômeurs. Et c'est ça l'enjeu massif pour notre pays. Ce n'est pas seulement un enjeu pour les retraites. Bien sûr, ils vont cotiser, bien sûr, ils vont améliorer le pays. Mais c'est un enjeu pour la santé, pour l'éducation, pour l'écologie. C'est ça l'enjeu pour notre pays. Donc, on est à l'envers. Donc, je suis en colère. Mais comme je vous entends et que je suis content de parler avec vous, je suis très content. On va y arriver. Il faut être en grève le 11, dans manif le 11. Et il va falloir poursuivre ensuite après.
Merci pour cet éclairage, évidemment. Vos billets d'humeur nous embarquent, hein, comme souvent, Frédéric Bocara, économiste, je le rappelle, et ancien membre du CESE. Merci, merci à vous. J'ai vu que vous faisiez la tournée des médias en ce moment. Vous êtes très sollicité.
Oh, un petit peu, oui. Je suis passé sur BFM Business hein, seulement, voilà.
Bon,
mais
c'est bien.
Effectivement, on
c'est
va
bien.
Continuer.
Ne lâchez rien.
Sourds.
Exactement.
À bientôt.
À très vite, Frédéric Bocara. Donc, on marque une pause pub et on se retrouve tout de suite après, justement, 0153483000 avec vous-même. Venez réagir à tout cela, évidemment. Est-ce qu'il faut continuer la mobilisation? Est-ce qu'il faut continuer le mouvement? Justement, entre l'intersyndicat, les syndicats, tout cela, les gilets jaunes, tous appellent à plus de mobilisation, y compris samedi prochain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce même mot d'ordre? Évidemment, comme le disent les syndicalistes et comme le disent tous les autres. Je vous attends au 0153483000.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
18h37, c'est parti, vous savez quoi, dans cette spéciale retraite, avant de retrouver nos débatteurs influenceurs. Direction, toujours évidemment, l'interview de ce soir.
Les informés, l'interview.
C'est avec Michel Fize, il est sociologue. Bonsoir Michel Fize.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Ben, parfait, bien.
Je rappelle un ouvrage que vous avez écrit. De l'abîme à l'espoir, hein, on est d'accord. Hein. À mi-mai 6, hein, c'est aux éditions. Quand vous regardez aujourd'hui cette manifestation, qu'est-ce que ça évoque pour vous, sociologue? Est-ce qu'elle est en train de s'essouffler? Ou alors, hein, au contraire, elle est en train de prendre forme?
Bah, écoutez, j'ai envie de dire peut-être pour commencer que 2023, c'est 2018 en pire. C'est-à-dire que tous les problèmes qui avaient été soulevés par les gilets jaunes sont évidemment toujours là, mais en plus, ils sont aggravés. Et vient s'ajouter, évidemment, cette question des retraites. Alors, je crois qu'il faut pas trop s'attacher aux chiffres. Hein. Bon, d'abord, il y a peut-être eu un peu moins de monde aujourd'hui. Mais
et pourtant, c'est la guerre des chiffres. Hein.
Oui, oui, bon, c'est toujours la guerre des chiffres, hein, mais bon, il y a quand même un taux de manifestants qui reste relativement important, et puis on a souligné, hein, à plusieurs reprises que bon, d'une part, il y avait le début des vacances scolaires dans certaines zones françaises, une journée d'absence de travail, ça coûte cher. Et puis, il y a cette grande manifestation du 11, donc samedi prochain, où ceux qui ne sont peut-être pas venus aujourd'hui viendront samedi, hein, précisément parce que là, il y aura la possibilité de venir, notamment en famille. Alors, vous savez, les chiffres, si on fait un parallèle avec la réforme des retraites de 2010, hein, en 2010, il y avait eu 8 manifestations, hein, dont 6 où il y avait eu plus de 3 millions de manifestants. Et pourtant, la réforme a été adoptée. Voilà. Donc on peut très bien imaginer qu'il y ait plusieurs manifestations qui ne réuniront pas 3 millions de manifestants, et pourtant la réforme ne sera pas adoptée. Voyez, donc les chiffres, c'est tout simplement un indicateur, mais un peu en trompe-l'œil. Hein. Donc je pense qu'il faut rester attentif. Il y a encore de grandes réserves de manifestants qui n'ont probablement pas encore fait leur tour de piste. Hein. Donc, je pense que la situation sociale est à ce point compliquée, hein, et cette réforme des retraites est à ce point rejetée, que nous sommes quand même face à un mouvement qui va s'inscrire dans le temps.
Qui va s'inscrire dans le temps. Vous êtes spécialiste notamment, vous savez, de la jeunesse, des adolescents notamment. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, sociologue Michel, justement, Fize, que la jeunesse s'intéresse de plus en plus à cette mobilisation et notamment, vous savez, préoccupée par ces sujets de réforme des retraites, même si ça leur paraît lointain?
Oui, et ben d'ailleurs, ça se traduit par des chiffres. Hein. Je crois qu'il y avait aujourd'hui une quinzaine d'universités qui étaient en mouvement de protestation. Je crois que des lycées ont également été bloqués ici ou là. Bon, et on peut penser qu'il peut y avoir aussi une montée en puissance. Voilà, mais je pense que c'est toujours un peu stupide de dire, mais ah ben les jeunes, pourquoi est-ce qu'ils descendent dans la rue? Ils sont pas concernés. Mais bien sûr que si, ils sont concernés. Alors, ils sont concernés à long terme, hein, mais ils seront concernés. Hein, parce que si on est sur cette logique d'augmenter régulièrement l'âge légal de départ à la retraite, hein, au motif qu'on vivrait plus longtemps, voilà, mais on sait aujourd'hui qu'on vit peut-être plus longtemps, mais depuis 10 ans, il y a une stagnation sur ceux qui vivent plus longtemps en bonne santé.
Ouais.
Donc
vous
on
savez, on était
de plus en plus longtemps en bonne santé.
Oui, de plus en plus longtemps en bonne santé, c'est ce que nous rappelait justement un économiste, là, Michel Boccara. À l'instant même, juste avant vous, il expliquait, disait qu'en réalité, quand on regarde un peu, évidemment, les chiffres et quand on s'appuie un peu plus sur cette réforme des retraites, dans d'autres pays voisins en Europe, notamment, certains partent à 60, 61, 58 pour certains. Donc en réalité, c'est un faux sujet. Vous dites quoi, vous, justement, le sociologue Michel Fize?
Ah ben je dis la même chose, hein. C'est absolument incomparable. Hein. Pourtant, ce sont les mêmes chiffres, effectivement, 67, 64, 65, mais dans des situations sociales et des conjonctures économiques et sociales qui sont tellement différentes, hein, que effectivement, on peut difficilement comparer. Et on cite souvent l'exemple scandinave, mais les Scandinaves sont les premiers à s'insurger contre cette réforme qui les a conduits à 67 ans. Parce qu'ils se retrouvent dans des situations d'extrême précarité. Donc si c'est travailler plus longtemps pour être finalement plus précaire, hein, ça n'est pas d'un grand intérêt. Voilà, mais je pense que ce que cette contestation montre aussi, c'est que finalement, il y a beaucoup plus de travaux pénibles qu'on l'avait pensé. Et on se rend compte que finalement, eh bien, toutes les tâches ingrates, répétitives, ne sont pas exécutées par des robots. Voilà. Qu'aujourd'hui, eh bien, éboueur, c'est difficile. Pompier, c'est difficile. Métallurgiste, c'est difficile. Maçon, c'est difficile. Couvreur, c'est difficile. Et tant d'autres professions, hein, où effectivement, on arrive usé déjà à 60 ans. D'ailleurs, ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que il y a 40 ans, on introduisait cette réforme de progrès qui avait été le droit de partir en retraite à 60 ans. Et 40 ans plus tard, on est en train d'allonger cette durée de retraite, alors pour des considérations d'ailleurs qui sont plus européennes, économiques, hein, de dictates de l'Europe, hein, que fondées sur des considérations, parce que le régime des retraites, il est pour le moment pas en grand péril. Hein, au pire, on aurait 12 à 13 milliards de déficit du système, mais ça fait, je crois que les économistes l'ont dit mieux que moi, ça doit faire à peu près 3% de l'ensemble des pensions versées. Donc il n'y a pas le feu sur le lac, comme disent nos amis suisses.
Michel Fize, selon vous, il se dit de plus en plus que, de toute façon, cette réforme de retraite s'est pliée, puisque la majorité est quasiment acquise au sein de l'hémicycle, l'Assemblée nationale. Alors, selon vous, Michel Fize, monsieur le sociologue, la question est très claire, c'est est-ce que cette mobilisation, ces mobilisations, est-ce que la rue va finir par faire plier, va faire fléchir ce gouvernement, l'exécutif?
Alors, il faut rajouter un troisième élément à l'alternative. Bon, il y a une procédure parlementaire qui probablement arrivera à terme, parce que même si il n'y avait pas une majorité du fait d'une défection d'un trop grand nombre de députés LR, bon, il y aurait toujours deux articles dont on parle beaucoup en ce moment, le 47.1, hein, qui permet de transmettre le texte sans qu'il y ait vote à l'Assemblée nationale directement au Sénat, et puis le 49-3, hein, le fameux passage en force. Donc juridiquement, le gouvernement a tous les moyens pour faire adopter cette réforme. Donc moi, mon sentiment, c'est que cette réforme va probablement être votée, mais on le sait avec l'exemple de la manifestation contre le contrat première embauche en 2006, hein, où M. Villepin avait fait adopter ce contrat première embauche le 31 mars 2006 et il l'a fait retirer le 10 avril 2006. Donc cette réforme peut être votée, mais aussi elle peut être retirée. Hein. Et c'est, à mon avis, si le mouvement de la rue tient longtemps, solidement, avec une agrégation peut-être de tous les mécontentements, comme au temps des gilets jaunes, bon, le scénario effectivement d'une adoption d'un texte qui finalement serait retiré me paraît le plus probable.
Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui vous écoutent partout en France, avant de vous, évidemment, de vous libérer, mon cher Michel Fize ?
Bah écoutez, bon, moi je pense qu'effectivement, tous les Français sont concernés. Hein. Je pense qu'on est dans une époque quand même, on a quand même oublié que, évidemment, le système capitaliste n'est pas un système tendre, hein, et qu'il est toujours en quête de rentabilité, de performance. Donc il y a une usure évidemment qui est toujours là, qui n'est peut-être pas la même qu'au 19e siècle, mais elle est toujours là. Et puis autre chose, hein, ce que les sociologues ont montré il y a déjà 50, 60 ans, on est aussi dans une société des loisirs, voilà, où il y a plusieurs vies dans une. Il y a la vie privée, familiale, et il y a la vie professionnelle. Eh bien quand les gens arrivent en retraite, ils vont pouvoir encore vivre une deuxième vie après la vie de travail. Voilà. Et ce qui me paraît être, évidemment, une revendication tout à fait légitime.
Je le rappelle, votre ouvrage « De l'abîme à l'espoir » aux éditions Mimesis, pardonnez-moi.
Ah, c'est compliqué, oui, c'est dit italien.
Exactement, absolument. Merci, monsieur sociologue, merci, Michel Fize, d'avoir été avec nous. Et au plaisir de vous retrouver dans
vous.
Les informés.
Au revoir.
Au revoir, à très bientôt, et au plaisir de se retrouver tout de suite, le face-à-face, c'est parti.
Les informés. Le face-à-face.
Dans cette spéciale retraite, vous le savez, hein, on a eu évidemment tous les points de vue. Le face-à-face, comme d'habitude, vous savez, il vient toujours les mains pleines de bonnes choses. Il s'appelle Nadir Kaya, président de Banlieue Plus. C'est vrai ?
Bonsoir Adil, bonsoir à tous.
Toujours à déguster des petits gâteaux, des petits cakes et tout, etc. Merci. Je le dis à nos auditeurs, hein, j'aime bien, moi, vous savez. Ça va, Nadir ?
Oui, et toi ?
Ça fait un moment.
Bah oui, je pensais qu'on était fâchés ou que la ligne était
Regardez-moi,
coupée.
Regardez-moi, est-ce qu'on a l'air fâchés ?
Ben non, pas comme ça. C'est pour ça que je m'interroge.
Oui, il faut oser dans la vie. Vous êtes chez vous ici. C'est porte est ouverte en permanence. Puis Henri, ça va ? Qu'est-ce qui vous arrive ?
Ah, moi, ça va très bien.
Tournez le micro dans votre direction, tiens.
Ah oui.
Oui.
Il réfléchit.
Enfin, si c'est dans cette direction-là, vous risquez de vous louper là quand même. Hein. J'aime bien. Dans l'autre sens. Ben oui. Qu'est-ce que vous faites ?
Oui.
Voilà. Mais tout va bien ?
Bah voilà,
le patron de France Fraternité, le président de France Fraternité, tout se passe bien ?
Oui, toujours.
Vous êtes en colère ou quoi ?
Pas encore.
Bon.
Mais ça va peut-être venir.
Bon, on a Abdeslam Itach qui a rejoint Europe Écologie Les Verts.
C'est ça, bonsoir.
Oh là là. Beaucoup ne comprennent pas, mais c'est votre choix.
Mais pourquoi ça existe ?
C'est votre choix.
C'est ça, ouais, j'ai rien entendu. J'ai rien entendu, il a dit.
Mais non, mais je sais pas. Non, je dis ça parce que j'ai entendu la nouvelle patronne des Verts annoncer la refonte du parti des Verts où elle veut 1 million de sympathisants. Elle a du boulot, hein, parce que là. Écologie Les Verts, c'est quoi ? C'est 5 000 personnes ?
Je crois que c'est 1 million d'arbres.
C'est l'aspiration
de planter des arbres.
Ah ouais.
1 million.
Et c'est les sympathisants qui sont...
Qui vont les planter.
Non, mais c'est la volonté de chaque parti de se développer et de faire venir le maximum de militants, justement, pour développer
une idéologie. C'est sympathique.
Vous savez ce que je viens de recevoir comme message ?
Oui.
Non, mais je le trouve marrant. Il est vert de rage, Abdeslam. Non, mais on vient de m'envoyer ça, c'est excellent quand même, non ?
Oui, oui.
Vert de rage.
Il est bon. Je suis vert de rage contre cette mesure que j'estime antisociale. Mais on aura l'occasion de débattre
Eh ben allons-y, débattons. Si débattons, vous savez quoi, on va commencer par ce premier sujet, la mobilisation d'aujourd'hui. Justement, est-ce que vous pensez que... c'est la même question, comment vous l'avez observé aujourd'hui, cette mobilisation, Nadir Kaya? Même question à vous tous, parce qu'on s'interroge un peu moins que mardi dernier, hein, 400 000 au lieu de 500 000 mardi dernier. Hein, on parle de... La CGT nous annonce 2 millions au lieu de 2 millions 5. Est-ce que ça s'essouffle pas? Ou non, tout le monde attend samedi prochain. Nadir Kaya.
Alors, je crois que comme ça a été dit précédemment, ce qui est intéressant, c'est que les chiffres, c'est important, mais c'est pas l'alpha et l'oméga. Mmh. Certes, d'après certains médias, il y a peut-être une baisse, mais quand on discute professionnellement avec des collègues et des amis dans la cité, dans la ville, tout le monde reste mobilisé et la majorité des Français sont contre cette retraite qu'ils trouvent injuste.
Contre cette réforme.
Cette réforme des retraites qui considèrent injuste. Après, le fait de se mobiliser sur le terrain, c'est encore autre chose. Il y a des gens qui peuvent vous l'expliquer parce que tout le monde ne le souhaite pas, mais globalement les Français soutiennent cette démarche-là parce que globalement on trouve ça inacceptable. À un moment donné, je pense que M. Macron a encore du temps dans son mandat. Je crois qu'il lui reste un peu plus de 3 ans et demi, voire 4 ans. Donc il peut prendre le temps de réfléchir et surtout d'écouter parce qu'il avait promis aux Français lors de la dernière élection présidentielle d'être un peu plus à l'écoute. Et malheureusement, encore une fois, les politiques nous démontrent qu'ils tiennent des propos, mais qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Mmh. Donc à partir de là, je ne veux pas me permettre de lui donner la leçon, parce qu'il est ce qu'il est, et puis il est quand même président de la République. Mais la démonstration de force inédite, hein, parce que ça fait quand même des années qu'il n'y a pas eu d'intersyndicale nationale à ce point-là, et aussi forte, il devrait prendre la mesure, voir ce qui se passe à l'Assemblée également, prendre acte et réfléchir vraiment avec tous les Français, tous les députés, tous les partis, pour travailler éventuellement sur une retraite qui soit à l'image des attentes des Français dans leur globalité.
On marque une courte pause et on se retrouve évidemment dans une poignée de minutes, à peine, pour donner le micro, la parole. Ouais, c'est ça, paraît-il. Allez, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Les informés, c'est aussi avec Nadir Kaya, Pierre-Henri, Abdeslami Tash, qui est vert de rage. J'aime bien cette expression. Je la kiffe. Vous allez avoir droit, hein, tout le temps.
Mais je
en rapécologe. Voilà, c'est ça.
Ouais. Pour ma part.
Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire? 18h55. La parole, je la donne à Pierre-Henri, président de France Fraternité. Alors, vous savez, presque 2 millions de personnes selon la CGT.
Oui. Et puis.
On dirait le oui, c'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu.
Million,
hein.
1 million selon la préfecture de police du ministère de l'Intérieur. Bon, d'abord, une remarque. Les trois grandes manifestations, parce que c'est la troisième journée de manifestation, se sont passées dans le calme. Au départ, ce n'était pas évident. Nous étions un certain nombre à craindre un certain nombre de tensions. Et donc, l'intersyndicale a su gérer cet aspect des choses. Et il y a une opposition à la mesure d'âge prise par le gouvernement qui est assumée avec beaucoup de tranquillité.
Oui.
Je crois qu'il faut regarder quelque chose au-delà des chiffres qui vont être annoncés, qui pourront faire polémique. C'est le nombre de manifestations dans les petites villes de France.
Il y en a eu moins. Et,
il y en a toujours. Beaucoup. Nous sommes mardi.
Ça fait des années.
Et il faut. Les gens ne vont pas perdre une journée de salaire comme
c'est
ça.
Vrai.
Et donc, nous verrons samedi. Mais de toute manière, toutes les études montrent que les Français et les Françaises, à 65%, sont contre cette réforme-là. Des retraites, c'est-à-dire la mesure d'âge. Et moi, je n'arrive pas à comprendre comment des libéraux, ce sont des libéraux qui sont au pouvoir, ne comprennent pas cette chose évidente. Les gens veulent continuer à partir à 62 ans s'ils le décident, fût-ce au prix d'une décote de leur retraite. C'est aussi simple que ça. Et je rappelle qu'il y a trois volets possibles pour une réforme des retraites. C'est à la fois la durée de cotisation, donc les 43 ans, tout le monde est d'accord sur les 43 ans, les 43 annuités. Bon, plus personne ne discute là-dessus. Il y a le taux de cotisation. Et moi, ça m'a beaucoup frappé. Il y a eu des sondages qui ont été faits et qui montrent qu'une large partie des Français sont prêts à cotiser un peu plus de manière à continuer à pouvoir partir à la retraite à 62 ans. Alors, et puis il y a évidemment la mesure d'âge qui est rejetée. Mmh. Il y a un élément sociologique qu'il faut avoir en tête.
Ben, on était avec
aujourd'hui, ben oui, mais il y a un élément fondamental, c'est qu'aujourd'hui, les Français et les Françaises héritent plus tardivement dans leur vie. Il y a 40 ans, 40, 50 ans, on héritait aux alentours de entre 40 et 50 ans. Et aujourd'hui, on hérite entre 60 et 65 ans. Eh bien, les gens, tout simplement, veulent profiter de cet élément.
C'est ce que disait Michel Fize.
C'est une question philosophique.
C'est ce que disait Michel Fize, sociologue.
Mais bien sûr.
Deux tranches. La première, on travaille. La deuxième, on vit.
Eh bien, voilà. Quitte à faire un autre boulot à côté, pas à 35 heures, etc. Mais c'est des choix. Et je n'arrive pas à comprendre l'enfermement dogmatique dans lequel est ce gouvernement. La façon dont ils ont traité Laurent Berger, qui, sincèrement, est un homme modéré, oui. Qui, depuis 2017, y compris les gros bataillons de la CFDT, ont fourni, grosso modo, une base électorale aussi à Emmanuel Macron. La façon dont Emmanuel Macron s'assoit sur les corps intermédiaires, et notamment les plus modérés, est vraiment, pour moi, une énigme. Que cherche-t-il? Que veut la majorité aujourd'hui? Parce que, bien sûr, qu'à un moment donné, ça va se tendre. J'ai entendu les discours de la CGT qui disent « mais il va falloir durcir ». Bon,
c'est ce que dit le syndicaliste de la RATP tout à l'heure.
Et c'est le pari.
Il parle de blocage. Hein.
Oui, mais
il parle de blocage pour les prochains.
Mais c'est le pari de la majorité.
C'est ce qu'on dit quand on dit on durcit un mouvement, c'est qu'à un moment donné, entre le blocage ou le fait d'aller plus loin dans la mobilisation.
Mais c'est le pari aussi de la majorité. C'est-à-dire qu'en fait, que ça se tende. Et que l'opinion publique se retourne.
Oui, mais ça, c'est...
Mais nous avons affaire à un peuple qui est profondément éduqué et profondément politique. Et donc, c'est un pari qui, pour moi, est totalement insensé. Et je pense que la majorité va dans le mur. Voilà.
Abdeslam Itache. La majorité va dans le mur. Bon, c'est rare hein, d'entendre ça de votre bouche, hein, parce que vous êtes plutôt...
Moi, j'ai soutenu Emmanuel Macron.
Il me semblait, oui, voilà.
Très clairement.
Vous l'avez soutenu régulièrement ici.
Je comprends mieux pourquoi on dit que la CFDT est plus modérée.
Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que Pierre-Henri est plutôt quelqu'un de relativement modéré, oui, puisqu'il est plutôt du camp des macronistes.
Je veux pas défendre M. Martinez, mais il n'a pas l'air extrémiste dans ses propos ou ses postures. Il est assez modéré, assez équilibré aussi, si je peux me permettre.
Oui,
Abdeslam Itache.
Il n'y a pas de polémique là-dessus. Alors, j'ai surtout pas envie de l'entretenir.
Alors, moi, j'entends ici et là se dire que la messe est dite, mais pas du tout. Je tiens juste à vous rappeler que, d'abord, sous Balladur, le contrat d'insertion professionnelle, le CIP, avait été justement retiré au regard de la pression de la rue. Il y a eu aussi Dominique de Villepin avec le contrat première embauche qui a dû reculer. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que...
Mais on a eu Sarkozy après.
On a eu Sarkozy,
mais disait que
pour d'autres mesures.
Quand les gens manifestaient, ça ne se voyait pas trop.
Oui, depuis qu'il avait instauré le service minimum. Mais aujourd'hui, voilà, la force est dans la rue et ce qu'il faut absolument... Vous savez, la loi est discutée à l'Assemblée nationale pendant 10 jours. Ce qu'il faut absolument, c'est tenir le cap, tout bloquer. Moi, je suis pour cette formule-là. Tout bloquer.
Comme
tout
disait le syndicaliste de la RATP.
Complètement.
Vous savez, Béral,
la capacité...
Il parlait de blocage du pays. Hein.
Ah, mais complètement. Et, il faut absolument paralyser ce pays et tordre le bras à Emmanuel Macron pour que cette mesure ne puisse pas arriver. Ensuite, on parlait d'Emmanuel Macron, mais quelle trahison quand on entend le Emmanuel Macron
2019
lorsqu'il disait mais pas du tout, il est hors de question de toucher à la retraite. Moi, de mon mandat, je ne toucherai jamais à cette retraite. C'est un non-sens que de le faire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il détricote et justement, il met à la rue des gens qui sont déjà en difficulté, qui sont en souffrance dans leur travail, qui ont déjà du mal à arriver à 62 ans. Qui sont à 59, 60 et qui ne se voient pas arriver à 62 ans. 64 ans, c'est la mer à boire pour ces personnes-là. Et ça, faut l'entendre. C'est juste pas possible.
Alors, la question que je pose, messieurs, parce que, alors, effectivement, mobilisation qui est reconduite samedi prochain, et puis dans les jours à venir. Est-ce que vous avez le sentiment, franchement, très honnêtement, je vous pose la question. C'est beaucoup où se la pose aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que toutes ces mobilisations qui prennent de l'ampleur ou pas, la question, elle est pas là. Mais est-ce qu'Elisabeth Borne observe tout ça? Est-ce qu'elle regarde tout ça? Est-ce qu'elle tient compte de ces mobilisations? Est-ce qu'à un moment, ou alors elle a une feuille de route, c'est d'aller chercher la majorité au sein de l'hémicycle et de se dire, de toute façon, j'ai la majorité, je ferai passer la loi concernant donc la réforme des retraites. Bon, que les mobilisations prennent de l'ampleur, c'est, comment dirais-je, allez, secondaire.
Alors, moi, si je peux me permettre, elle est certes Premier ministre, mais elle fera ce que lui demande de faire Emmanuel Macron. C'est pas elle qui prendra la décision. Elle peut prendre acte de la mobilisation et alimenter les débats et les discussions avec les uns les autres. Mais à un moment donné, s'il doit y avoir discussion, c'est Macron qui lui dira qu'il faudra discuter pour éventuellement retoquer comme il faut cette réforme des retraites, ou alors éventuellement l'annuler. Je ne sais pas si on peut le faire, parce qu'ils sont déjà lancés dans les débats. Ça a déjà commencé depuis hier. Ça va durer un certain nombre de jours. Moi, ce qui m'interroge par rapport à ce qu'on disait et ce que disait Abdeslam juste avant, c'est que M. Macron a changé de cap et il faut pas oublier qu'on est gouverné par des lobbies. Il y a une réalité financière, économique en France. On dit que cette réforme, elle répond à un besoin de 17 milliards, d'un manque de 17 milliards et quelques. Quand on sait qu'une poignée de grands patrons ont bénéficié de plus de 200 milliards dernièrement, 17,5 milliards, c'est pas grand-chose. Donc, oui, si aujourd'hui M. Macron veut imposer cette réforme, je pense que c'est pour deux raisons. La première, c'est pour une question d'ego, c'est pour s'affirmer et affirmer son pouvoir pour le reste du quinquennat. Et la deuxième, c'est parce qu'il doit répondre aussi à des obligations de lobby aujourd'hui. Et c'est, ce qui est malheureux,
c'est référence à Bruxelles.
Un intervenant l'avait très bien dit. On dit tout et n'importe quoi aux Français.
L'Europe, l'Union européenne n'est pas un lobby. Comment on peut parler de l'Union européenne?
Moi, personnellement, je suis pour la sortie de l'Union européenne. Oui, mais bon, on a des.
Pour le dire très clairement.
Je le dis très clairement, moi, là-dessus.
Oui.
Parce qu'on a des obligations vers l'Union européenne.
Qui est notre avenir. Qui est véritablement notre avenir de lobby, c'est tout simplement un non-sens. Il y a des hypothèses qui
notre
ont été
avenir
faites.
De lobby, j'ai pas dit ça comme ça.
Oui.
Il y a des lobbies en France, il parle de l'Union européenne. Et aujourd'hui, vis-à-vis de l'Union européenne, je pense qu'il faut en sortir effectivement dans certains aspects.
Il y a des hypothèses qui ont été formulées par le corps, l'organisme qui a travaillé sur les retraites, et dont la plus pessimiste montre que dans un scénario, il y a 12 milliards, il manquerait 12 milliards par an pour financer les retraites. Mais encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la défiscalisation... le taux de cotisation peut très bien aussi être augmenté et on peut très bien imposer taxer.
Moi, je suis pas d'accord. Parce que c'est toujours pareil.
Vous allez lui répondre.
C'est toujours les Français qui demandent de faire un effort.
Laissez-le juste finir. Vous allez répondre.
Bah oui,
s'il vous plaît.
C'est les Français qui payent les retraites des Français. Les Français.
Oui, tout à fait. Mais il y a d'autres façons de récupérer de l'argent. On oublie de rappeler aux Français que ce sont les Français qui.
Mon cher,
les travailleurs français qui sont les plus productifs de la zone européenne.
Laissez-le finir.
C'est un fait.
Oui,
bon, ça, on oublie de le dire. On a l'impression que les Français ne travaillent pas assez. Oui. On a dit aux Français que c'était quelque part des feignants. Le gouvernement, certains politiciens ont dit ça, que les Français étaient feignants, qu'ils ne travaillaient pas assez. Ça a été dit juste avant, on fait des comparaisons avec les pays européens pour faire croire aux Français qu'on est mal placé, qu'on est des râleurs et qu'on n'en fait pas suffisamment. Oui, c'est totalement faux.
Oui.
Donc à partir de là, l'argent, il y en a en France. Le vrai souci, c'est la répartition, même si c'est peut-être un terme qui va faire rire Abdeslam parce que c'est une position qui peut être de gauche, mais moi je suis ni de gauche ni de droite. J'essaie d'être assez factuel.
Vous êtes comme Jobert dans les années 80.
Ailleurs. Bah, je préfère être ailleurs.
Vous êtes sur notre planète.
Et me chercher que d'être sûr d'être quelque part et de faire n'importe quoi.
D'accord. Mais n'importe quoi, on est dans. De toute façon, sachez une chose, plus on retiendra.
Pourquoi Macron il est quelque part?
Plus on retiendra les aînés au travail, plus on retardera l'entrée des jeunes sur le marché du travail.
Et, oui, il n'y a pas que ça, mais
jeunes, dans 20 ou 30 ans. Non, mais, c'est mais quand ils arriveront à terme.
Un salarié sur 4 qui ne pourra pas bénéficier de sa retraite parce qu'il sera mort. Et deux sur cinq qui seront en mauvaise santé.
Je vais finir mon propos. Et ces mêmes jeunes qui tarderont à rentrer sur le marché de l'emploi, une fois arrivés à terme de leur activité professionnelle, eh bien, on leur annoncera qu'il leur manque des trimestres.
Oui, parce qu'ils rentrent entre 20 et, 20, ben oui. et 25 ans aujourd'hui. Mais la faute à qui?
Ben oui, mais parce que justement, on ne fait que déporter le problème. Aujourd'hui, il faut absolument permettre qu'il y ait de l'intergénérationnel, permettre à ce que des jeunes puissent travailler avec les anciens avant leur départ, pour qu'il y ait un transfert de compétences, un transfert de connaissances.
Là où vous avez raison, c'est de poser
la
question.
Ah, j'ai souvent raison. Si vous m'écoutez, vous
avez... Ça, j'en sais rien, mais... Les auditeurs jugeront.
Alors, je vous redonne la parole.
Là où il y a un vrai sujet, c'est effectivement sur l'emploi des seniors. 55% des plus de 55 ans ne sont pas en emploi au moment de la prise de retraite.
Oui.
Et donc, ça pose un vrai sujet. Et c'est au cœur même de la réforme et de l'incompréhension. Parce que les Français se disent, ben oui, je vais bosser jusqu'à 64 ans, mais enfin, un sur deux n'est pas au boulot.
Pierre-Henri.
C'est vrai, il a raison. Alors, c'est là où je reprends j'ai envie de dire de bas blesse.
Justement, Pierre-Henri, une personne qui a 59 ans, qui est sur le marché de l'emploi, elle ne trouve pas de travail, vous le savez. Sûr. Donc cette personne reste en souffrance à toucher. Vous savez que les rangs du RSA pour les personnes âgées a explosé.
Bien sûr.
Et les personnes qui sont à la retraite à 58 ans ne retrouvent pas du travail. Et ils traînent au RSA comme ça jusqu'à la retraite. C'est purement scandaleux. Et on va les envoyer comme ça de 58 ans à 64 ans.
Aussi, c'est la faute au gouvernement. Ils n'ont pas anticipé cette
situation. Ce n'est pas la faute au gouvernement.
Ils ont des éléments là-dessus. À partir de là, c'est à eux de prendre les bonnes décisions rééquilibrer ça. On sait qu'il y a des inégalités hommes-femmes dans le monde du travail.
Donc,
on le dit depuis des années. Mais qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il fait le constat, tout simplement. À un moment donné, on est au pouvoir. Quand on est au pouvoir, c'est pour changer les choses. C'est pas pour faire des constats.
Et changer les choses dans le bon sens, absolument.
Vous savez quoi? Il y a Marine Le Pen, justement, je voudrais qu'on avance, qui dénonce, elle, des manœuvres d'intimidation. Alors, bon, on comprend très bien à quel jeu joue-t-elle. Mais justement, contre des députés, elle dit, Marine Le Pen, je récupère son terme, des manœuvres d'intimidation. Donc ça, c'est la présidente du groupe RN, donc, à l'Assemblée nationale, qui, elle, s'attaque, la députée de Renaissance, et qui ont dénoncé des messages d'intimidation reçus par des députés. Bon, Marine Le Pen, elle est dans son jeu, dans son rôle?
Oui, comme un certain nombre de députés Renaissance qui ont...
Mais on peut considérer ça comme quoi? Des menaces?
Oui, alors...
c'est il y a trois messages personnes. D'intimidation quand même,
oui,
c'est beaucoup.
Oui, hein. Oui,
il y a des exemples, parce que c'est des faits.
Non.
Il y a des parlementaires qui toute l'année qui reçoivent des menaces.
Enfin, non, mais je crois qu'il faut condamner les menaces.
Bien sûr.
Et notamment ces menaces...
Il y a même la députée de Renaissance qui a dénoncé ça.
Il faut expliquer pourquoi.
Tout simplement.
On est dans un état de droit.
Il faut expliquer pourquoi, en réalité, parce qu'il y avait une motion référendaire, et la motion référendaire qui était signée notamment par le RN, mais aussi une autre par la NUP, et une troisième par d'autres députés centristes, impose à chaque parlementaire d'être présent dans l'Assemblée nationale. Et il y a un petit malin, un ou une petite maline, j'en sais rien, qui a cru bon d'envoyer des messages
à des députés,
aux femmes. Députés, pour leur dire qu'il y avait un proche qui était à l'hôpital.
Que leurs enfants étaient à l'hôpital, hospitalisés.
Bon, c'est parfaitement dégueulasse.
C'est dégueulasse.
Ça ne grandit pas.
Non, c'est des méthodes lamentables.
Ça ne grandit pas la politique. On passe à autre chose.
Alors, juste Abdeslam Itesh. On ne saura jamais qui a envoyé ces documents. On est bien d'accord. Donc, on peut mettre des doutes sur tout le monde, y compris sur les rangs du Rassemblement national, qui ne font que se victimiser, selon moi. Donc, à vous de prouver. Non, mais à vous de prouver. Que c'est la NUPES ou le centre ou ne sais qui.
Sais rien, moi
voilà, mais on ne le saura jamais. Donc
après, si je peux me permettre, se victimiser, bon, c'est une chose. Hein, beaucoup de politiques le font. Il n'y a pas que le RN. Hein, défendre. Mais je pense aussi, c'est Adil, si je peux me permettre, c'est aussi une façon d'exister dans la situation où aujourd'hui.
C'est pas une question d'exister, je crois pas.
La lumière est mise sur le gouvernement et sur les syndicats.
Donc quand même des méthodes quand même qui sont.
Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Je pense que ça a toujours existé dans cette enceinte-là. C'est connu. Moi, je veux simplement penser qu'elle essaye de se faire entendre et se faire voir là dans un moment où les médias se focalisent sur la mobilisation du terrain. Donc à partir de là, elle essaie d'exister en rappelant des choses qui existent depuis longtemps. Je l'invite à porter plainte, tout simplement.
Oui, parce qu'on est dans un état de droit, exactement.
Qu'est-ce qui se passe, Pierre-Henri ?
Non, mais...
Mais qu'elle ait porté
simplement plainte. Dire que ce type de méthode... a lieu en permanence à l'Assemblée nationale.
J'ai pas dit en permanence, j'ai dit que c'est des choses qui existent
mais
déjà.
Mais je dis que c'est pas fait par le RN.
Franchement, moi, j'ai quand même aussi une petite expérience de regard sur la vie politique et j'ai rarement vu ça. Et ça ne grandit pas la politique. Ça ne grandit pas le rapport aux politiques et au respect parlementaire. Quand les gens écoutent ça. Sur les grandes radios d'information
comme
ou de désinformation, franchement, qu'est-ce qu'ils doivent penser ? Que vraiment la politique, c'est pas possible, c'est pourri.
Ouais. Et c'est ce que vous avez raison.
Et ça, c'est terrible. Que je pense que la démocratie a besoin des partis politiques, a besoin des parlementaires.
Pierre-Henri, on marque une pause et on se retrouve tout de suite après avec les deux sujets aussi qui nous concernent. Jean-Luc Mélenchon n'est plus millionnaire. Ce n'est pas millionnaire. Bon. C'est une espèce d'aller-retour en permanence.
Il a mal placé son argent ?
Je ne sais pas, on va en parler dans une petite minute et puis on parlera aussi du séisme. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et Les Informés, vous le savez, c'est avec Abdeslam Itach, avec Nadir Kaya et enfin Pierre-Henri. Second sujet...
Les Informés, le face-à-face.
Ouais, Anthony, il dégaine plus vite que son ombre, hein, et c'est Luc et Luc. Jean-Luc Mélenchon n'est pas... millionnaire. C'est une déclaration d'Alexis Corbière qui, figurez-vous, hausse le ton face à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et dit évidemment que pointe du doigt, il est millionnaire et pointe du doigt. Enfin, on se renvoie la balle à tour de rôle chacun. Moi, je suis millionnaire, lui, il n'est pas millionnaire. Mais c'est pas un peu puéril, stérile comme débat, Pierre-Henri, tout ça.
Franchement, de savoir
qui est millionnaire, qui ne l'est pas. Oui, mais moi, j'ai un patrimoine, toi, t'en as pas.
Deux choses.
Alexis Corbière qui rétorque et qui dit oui, mais attendez, il hausse le ton pour rappeler que cette polémique.
Très sincèrement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je rappelle simplement que Mélenchon a 40 ans de carrière parlementaire, d'élu.
Il a tout fait.
Et donc, on peut estimer que ses rémunérations étaient celles d'un cadre de bon niveau, de haut niveau pendant toute sa vie. Il est normal qu'à 70 ans passés, il ait un patrimoine. Franchement, je ne comprends absolument pas cette polémique. S'il y a des choses à reprocher à LFI, à Jean-Luc Mélenchon, et il y en a, faisons-le sur le fond.
Je vais vous dire, c'est quoi qui est reproché ? Oui. C'est les donneurs de leçons.
Oui, voilà. Mais ça suffit, c'est totalement stupide.
Et donneurs de leçons qui viennent évidemment à longueur de journée.
Et une fois de plus, ça n'a aucun intérêt. Voilà, ça nourrit des polémiques stupides qui font peut-être le bonheur de certaines chaînes de télévision comme CNews. Mais enfin, franchement, on s'en fout.
Abdeslam Itach.
Oui, non, enfin, Darmanin nous habitue un petit peu à ce genre de d'esclandre, comme faut être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Vous voyez, ça, c'est toujours très, très simple comme rhétorique de la part de Darmanin.
Oui, mais en même temps, il parle du travail, il parle du mérite, il parle de l'effort.
Franchement, on s'en fout.
Ah, c'est bien, ça.
Magistralement, mais vous savez que Mélenchon était candidat à l'élection présidentielle. Et tout candidat a le devoir d'annoncer son patrimoine pour une seule raison, c'est que dans l'hypothèse où il venait à devenir président de la République, qu'on puisse voir avant et après s'il n'y a pas eu d'enrichissement pendant ce mandat. Donc voilà les chiffres, je pense que Mélenchon ne ment pas dessus, il annonce son patrimoine de la façon la plus honnête. Je vais vous dire une chose, faire diversion pour ne pas parler des choses essentielles, je pense que c'est l'art que manie très bien Darmanin. Donc voyons ce qui pose problème et la fortune de Mélenchon, franchement, je m'en fous, mais magistralement.
Bon, Nadir Kaya, vous aussi, pareil, qu'est-ce qu'on peut dire de cette pseudo-polémique ?
Au vu de l'actualité, franchement, c'est pas très intéressant. Mais ça peut rappeler qu'on peut être de gauche et défendre les petits salaires, les Français modestes et être très riches. C'est des combats qui n'appartiennent pas qu'aux pauvres. Hein. On peut avoir des gens qui ont de l'argent, qui sont aisés, qui sont bien placés, qui ont des postures sociales importantes. Je pense que ça ne va pas le rendre moins heureux. Il est bien entouré. Donc, s'il a fait don d'une partie de sa fortune, c'est très bien pour lui.
Mais il n'a pas fait don, justement. Hein.
Je ne sais pas, je ne connais pas.
Mais voilà, bon, il a un patrimoine, c'est normal. Il a travaillé.
Il n'a pas fait de maladresse, le ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est son rôle aussi, vous savez, de faire des comparaisons?
Il n'y a pas de maladresse.
Il renvoie sa mère, le travail du culte, etc. Pierre-Henri.
Écoutez, franchement, s'il n'arrive pas à mettre sa mère à l'abri.
Malgré son argent,
malgré ce qu'il gagne comme ministre, c'est qu'il y a un vrai souci parce que il ressort sa maman. Il est d'origine modeste, Darmanin. Oui, bon, d'accord, on a compris. On a compris que sa maman faisait des petits jobs de femme de ménage, etc. Si elle a une petite retraite, j'imagine que le fils, c'est-à-dire Gérald Darmanin, peut lui venir en aide.
Oui. Hein. Même le devoir.
C'est vrai.
Le retour du bâton, ça dépend comment elle l'a éduqué. Donc voilà, à un moment donné, on récolte ce qu'on
sait. Il fait de la politique, il est très politique, Gérald Darmanin. Il sait ce qu'il fait et c'est une opération de diversion. Évidemment.
Ah oui, pour savoir ce...
C'était Pasqua qui disait, bon, quand vous êtes dans des emmerdes, vous créez l'affaire.
D'autres emmerdes pour brouiller les pistes.
Ensuite, l'affaire dans l'affaire dans l'affaire.
L'affaire dans l'affaire dans l'affaire. C'est le principe de la vache qui rit.
Au bout d'un moment, plus personne n'y comprend rien.
On ne sait plus qui est la vache et qui rit.
Mais on pensait qu'avec Macron, ça allait changer tout ça.
Abdeslamitage, oui.
Non, mais c'est exactement ça. Voilà, c'est une diversion et c'est une façon, honteuse de la part de Darmanin de montrer du doigt Mélenchon. Mais voilà, où il nous habitue à ça. Ensuite, parler de sa pauvre maman, je pense que il y a une façon d'exhiber ses parents qui est peut-être indigne et que il aurait plutôt le devoir de s'occuper de sa maman si elle ne s'en sort pas et qu'il puisse l'aider. Financièrement. Voilà,
si vous venez de nous rejoindre, sachez-le, 19h25, et on a les derniers chiffres. 757 000 donc manifestants en France, selon la police, 2 millions selon la CGT en France. Bien sûr, on parle de France, là, évidemment, en France. Pourquoi ça vous surprend?
Non, mais je crois. Il y a un moment où on va avoir un organe ou un organisme plutôt indépendant qui sera capable de quantifier ce type de manifestation. Parce qu'on a toujours ces deux chiffres qui nous embêtent un peu. Je pense que les politiciens, notamment le gouvernement, en profitent à chaque fois. Hein. Ça permet de minimiser un petit peu la démarche citoyenne. Et ça, c'est un petit peu usant parce que ça démontre aussi, ce qu'on disait juste à l'instant, que Macron ne fait de la politique à l'ancienne. Lui qui prétendait vouloir faire différemment, on s'aperçoit, que ce soit lui ou Darmanin, que la politique, une fois qu'on est au pouvoir, on l'a fait de la même façon que ses prédécesseurs.
Mais et sur le gâteau, ils annoncent 57 000 pour Paris.
Pour Paris.
Ce qui est juste, j'y étais. Oui. Donc, alors, 200 000, c'est dur à compter, mais 57 000, c'est... ils sont méchamment bien
loin de gueule. Voilà.
Alors, je rappelle qu'il y a un certain nombre de médias qui ont passé un accord avec une société qui s'appelle Occurrence et qui est chargée normalement de donner les chiffres.
Bon, c'est les télévisions.
Moi, j'avoue, j'étais à la manif précédente, je n'étais pas à celle-ci. J'avoue que j'avais été stupéfait par les chiffres d'occurrence qui me semblaient très en deçà de la réalité. Bon, voilà. Mais de toute façon, les Français sont mobilisés contre cette réforme. Les commentaires du jour pourront dire, parce que je vois très bien ce qui va se passer, un certain nombre de parlementaires vont dire, vous voyez, la mobilisation est en baisse, etc. Et bon, et puis si samedi, parce que je pense que les familles seront au rendez-vous, sont là, il y a de nouveau...
Il fait beau, normalement.
Normalement, c'est un énorme succès.
Je voudrais qu'on parle, vous savez quoi, de ce dernier sujet avant de rendre l'antenne, c'est le séisme en Turquie et en Syrie. Terrible, effectivement. 73 pompiers français, vous savez quoi, et membres de la sécurité civile se sont rendus, qui sont arrivés en Turquie. Évidemment, le bilan dépasse 6200 morts aujourd'hui, alors je vous parle. Terrible, effectivement.
Deux, trois pays, je crois que c'est pas simplement la Turquie, c'est la Turquie, la Syrie et aussi le Liban.
Oui, absolument. Messieurs, un tour de table. 73... pompiers, c'est toujours ça?
Non, mais le monde entier est quand même mobilisé autour de ce drame. ce séisme qui a fait, on ne sait pas très bien, mais près de 5000 morts, 30 000 blessés dans une région montagneuse, voilà, et qui sans doute, je ne sais pas si on en parlera, mais va interroger aussi les normes de construction d'un certain nombre de bâtiments, parce que ça, c'est aussi un vrai sujet. On oui. est sur une zone sismique,
un doublement, 7, 8, doublement en sismique, il y a deux plaques tectoniques, donc la Turquie aura voilà. en permanence des tremblements de terre, oui, et absolument. De façon régulière.
Oui. Absolument, et donc Monsieur Erdogan, qui donne la leçon à tout le monde, faudrait peut-être bien aussi de s'interroger sur ce qu'il fait à l'intérieur de son
et
pays.
Et on tacle, au passage.
Oui, au passage.
Non, alors, oui. moi, c'est vrai que je dirais, quand j'entends le chiffre des pompiers mis à disposition, il me paraît très faible. C'est vrai qu'on peut rappeler qu'il y a une dynamique internationale. Après, pour être parti plusieurs fois en Turquie, je sais qu'Erdogan a fait un travail extraordinaire depuis 20 ans. On peut le critiquer d'un point de vue politique, c'est tout à fait normal. Ouais. Mais en termes d'infrastructure, il a fait énormément de choses, surtout quand je fais la comparaison avec les pays du Maghreb.
Grand libéral, Erdogan.
Alors ça, c'est encore autre chose, on pourra faire un débat là-dessus. Ouais. Moi, je trouve très intéressant politiquement, même si ça peut déranger certains, surtout quand on est président de confession musulmane et qu'on assume pleinement et qu'on se bat face à... au pouvoir incontestable des États-Unis et de l'Europe un peu partout. Moi, Erdogan, je suis plutôt sensible à sa façon de faire de la politique, même si ça dérange certains.
Mmh. Abdeslam Itach.
À l'intérieur et à l'extérieur de l'OTAN, on ne sait pas très bien avec qui il est. C'est un allié très incertain, M. Erdogan.
Ah bah,
il faut aller demander à l'opposition, à l'opposition en Turquie ce que l'on pense de M. Erdogan, qui met tous ses opposants en
Abdeslam.
Ouais. Enfin, je sais pas, quand tu dis Abdeslam, c'est Pierre Henry qui prend la parole. Donc, dis Pierre Henry, peut-être que ce sera moi qui.
Allez-y. Mais c'est pas grave.
D'abord, non, il y a pas. D'abord, toutes mes pensées vont en direction des familles qui ont été touchées, qui ont perdu des proches et qui aujourd'hui encore gardent espoir à retrouver des personnes vivantes. On a eu l'image de deux enfants, d'une petite fille qui protégeait son petit frère et c'est des images qui font chaud au cœur. Et Adil, permettez-moi quand même un petit coup de gueule concernant Charlie Hebdo qui représente une image séisme en Turquie et il est noté pas besoin d'envoyer des chars. Je trouve ça odieux, honteux, sous couvert de la liberté d'expression. Je pense que ces gens confondent liberté d'expression et liberté d'injure. Et être dans la souffrance, perdre un proche et être insulté de la sorte, c'est juste indigne.
Merde. Moi, j'étais pas au courant, mais.
Messieurs, je dors en l'antenne.
Il aurait fallu ne pas en parler, tout simplement.
Merci, Abdeslam Itach. Merci à Nadir Kaya. Merci à Pierre-Henri.
Merci, et à bientôt.
À la réalisation, c'était Anthony Belen Nenman. Vous allez le retrouver.
Et à samedi.
Absolument. Ah oui, alors le rendez-vous, dites-le.
Ah ben, samedi, 8h20, dimanche, 8h20, pour l'émission Un pays en débat.
Absolument. Bilal Edman, 21, c'est Vanessa. Quant à moi, demain, avec autant de plaisir, messieurs. Prenez soin de vous. Ciao, et on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.